Bon, vous savez que la fête de Hanouka se situe dans un contexte historique important, c'est un contexte post-biblique. Et non seulement c'est après la Torah que ça se passe, mais encore plus que la fête de Pourim qui se passe encore dans le cadre de l'époque biblique, ça se passe à l'époque post-biblique, c'est-à-dire à une époque où il n'y a plus de prophètes. Mais ça s'insère dans une conception très particulière de l'histoire pour les Chachamim. Vous savez que pour les Chachamim, l'histoire, contrairement à ce qu'on enseigne dans la tradition occidentale, ne se divise pas en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle l'histoire sainte, ce qui suppose une autre partie qu'on appelle l'histoire profane. Vous savez que c'est une notion très connue dans le, disons, dans l'atmosphère chrétienne ou proto-chrétienne dans laquelle se situe l'Occident. Alors, on a l'habitude en Occident de dire qu'il y a ce qu'on appelle l'histoire sainte. Vous connaissez ça? Manuel d'histoire sainte, des trucs de ce genre. Bon. Alors, ce qu'on appelle l'histoire sainte, c'est l'histoire biblique. Du point de vue des chrétiens, ça continue même après, jusqu'à la fondation du christianisme. Et ça suppose donc qu'il y a une partie de l'histoire qui est sainte, et puis une autre partie qui n'est pas sainte. Et par contre, ce que la Bible nous enseigne, c'est quelque chose de très important, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire que l'histoire, dans son ensemble, depuis ses origines jusqu'aux dernières élections législatives ou communales, tout ça fait partie d'un projet de sainteté. Et la clé de ça a été révélée à l'époque où il y avait encore des prophètes, mais ce que les prophètes nous ont appris, c'est comment considérer l'histoire dans son ensemble. Donc même une partie de l'histoire qui se situe après que soit cessée la révélation directe, après qu'il n'y ait plus de prophètes, a un sens. Alors, je crois qu'on avait, la dernière fois qu'on avait parlé de Hanouka, on avait compris que les Chachamim ont vu l'affrontement avec la Grèce dans la partie du récit de la création qui est appelée Rocher. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire qu'il y a, selon la tradition, il y a un moment où l'histoire tombe dans la catastrophe. C'est une sorte de désordre. Le désordre se fait lorsque des empires essayent de s'emparer du monde. C'est très intéressant parce que d'habitude les empires disent qu'ils viennent régler les problèmes du monde. Les empires viennent unifier la création, viennent unifier l'humanité, et ces tentatives sont considérées par la Torah comme étant une catastrophe. C'est ce qu'on appelle le tohu vavohu, le tohu bohu, comme on dit en français. C'est là que le monde tombe dans la catastrophe parce qu'il y a une tentative d'imposer un mode particulier d'identité humaine aux autres modes. Par exemple, le mode hellénistique considère que tout le monde est grec, avec des variations folkloriques locales. C'est-à-dire, il y a une manière grecque d'être grec, il y a une manière égyptienne, ou une manière babylonienne, ou une manière juive d'être grec. Donc tout est en grec, puisque le grec c'est la... Ouais, c'est ça, c'est l'homme de base, c'est l'humanité ultime. Et dans tout cela, il y a dans cette unité de civilisation, il y a des particularités qui ne méritent pas d'être mises en absolu. Par exemple, oui, non, le sous-homme est en dehors de l'humanité. Alors le sous-homme, c'est celui qui n'est vraiment pas grec du tout. Celui-là, c'est le barbare. Mais le projet d'Alexandre le Grand, c'était justement d'héléniser l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire, de son point de vue, de faire de tous les hommes des hommes. D'accord? Oui, tu veux dire quelque chose?
Oui, non, ça rejoint un peu le principe de tolérance qu'on aura aujourd'hui, surtout en France, c'est de vouloir, au nom de la tolérance...
Ah oui, ce qu'on appelle la tolérance en France, c'est l'abolition des différences. C'est un truc simple, c'est dans le système français, c'est très fort, ça. C'est-à-dire, dans la laïcité nie le droit à la différence. C'est-à-dire tout le monde doit être, par exemple, toutes les femmes doivent être indécentes, mais par exemple le voile est considéré comme l'intolérable. C'est-à-dire il y a une limite à la tolérance. C'est-à-dire que là on peut pas tolérer l'intolérable. Le tolérer l'intolérable, c'est supporter, c'est l'extrémisme dans la pudeur. Alors c'est vrai qu'on peut faire des critiques justifiées, mais pourquoi est-ce que la critique est dans un sens et pas dans l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'indécence étant la norme. Disons, elle peut même être poussée à l'extrême. Mais le voile, non, ça ne marche pas. D'accord? Et ici, il y a un problème de définition. Il y a des contradictions internes terribles dans la laïcité française, contrairement, par exemple, à la laïcité américaine, dans laquelle, justement, il y a une forme de communautarisme, et donc, ça va, tout le monde peut très bien vivre à sa manière, sans problème. Par exemple, les États-Unis, c'est le cas d'un très particulier, d'une variété d'identités au sein du protestantisme. C'est-à-dire, tout le monde est protestant aux États-Unis. Il y a des protestants protestants, il y a des protestants juifs, il y a des protestants catholiques, il y a des protestants hispaniques. Mais enfin, tout le monde est protestant d'une certaine manière. Alors, là aussi, il y a une sorte, d'une façon très subtile de tentative d'unification de la culture. C'est-à-dire, mettre une couleur unique à toutes les différentes couleurs. D'accord ? C'est pas la même manière que dans le schéma français, mais ça existe aussi. En tout cas, donc, l'hellénisme, et c'était la première tentative de ce genre que nous avons confrontée dans l'histoire, et c'est ça qui a commencé à Hanouka. Ça veut dire quoi, tous les pays démocratiques ? Il y avait un goy du nom d'Aristote, très intelligent, dont vous avez certainement entendu parler, qui était grec d'ailleurs, et qui a affirmé que les régimes politiques passent de l'un à l'autre. C'est-à-dire, la démocratie représente une phase de la société humaine, passagère d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'histoire des hommes où le système démocratique est le meilleur. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Dans l'histoire des hommes
ou... Dans l'histoire des sociétés. C'est-à-dire chaque société, d'après Aristote, doit passer d'un régime à l'autre. Alors, il y a un moment où elle est démocratique, la société. D'accord ? D'ailleurs, on peut très bien considérer la démocratie comme étant, disons, la manière la plus pratique de vivre ensemble à un moment donné de l'équilibre des forces. Comment ? Tous les peuples sont faits pour être démocratiques à un moment de leur histoire. Oui. Oui, c'est-à-dire que le système démocratique fait partie des options possibles du point de vue de la halakha. D'accord ? Ça peut marcher à un moment ou à un autre. Penser que ça peut toujours marcher, par exemple, il y a un présupposé très important du State Department, qui est que les Irakiens sont des démocrates américains. Et donc, ils ne peuvent pas supporter la tyrannie de Saddam Hussein. Et donc, il est évident que le jour où un tank américain aura passé la frontière irakienne, eh bien, le peuple qui en a assez de la dictature va se révolter pour fonder une démocratie à l'américaine. Voilà. Je crois que ça a été démenti par les faits, ce qui est assez surprenant. Eh bien, sabotage, quelque part. D'accord ? C'est cette incapacité de voir que l'autre fonctionne d'une autre manière que toi. C'est un truc banal, quoi. C'est des choses qu'on commence à comprendre maintenant après que les Américains se soient cassés les dents plusieurs fois avec ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Ils ont commencé à comprendre que le printemps était d'un autre climat qu'en Amérique. Et donc, ils ont compris certaines choses. Enfin, donc, pour revenir à Hanouka. Alors, cette histoire donc des quatre empires. Vous savez qu'on se base donc sur une idée qu'il y a quatre empires fondamentaux. C'est écrit en toutes lettres dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a une vision qu'a le roi de Babylone, celui qui ne buvait qu'une seule boisson. Il n'a bu que du nosor. Et il a une vision en rêve. Il voit là-bas un grand colosse, comme ça, une statue qui est faite de plusieurs métaux. Et il voit la tête en or et les bras et la poitrine en argent, et le ventre et les hanches faites de cuivre, et les pieds sont faits d'argile et de fer. D'accord ? Il ne sait pas ce que ça veut dire. Vient Daniel et lui interprète son songe. Il lui dit, voilà, la tête d'or, c'est Babylone, c'est toi-même. Antu Resha de Daaba. Mais il y aura un empire qui viendra après le tien, qui lui sera comparable à de l'argent. Et c'est les Perses, quoi. Les Perses, oui, c'est ça. Et puis, après, il viendra un troisième empire qui ressemblera au cuivre. Hein ? Les Grecs. Hein ? Je ne sais pas encore. Je ne fais pour l'instant que lire dans Daniel. Et le quatrième empire sera fait de fer et d'argile, donc il sera faible. Et une petite pierre se détache de la montagne qui frappe au pied du colosse et il s'effondre parce qu'il est fait d'argile. C'est un colosse au pied d'argile, c'est l'expression. Et donc il s'effondre et à la place il est remplacé par une grande montagne. Et cette montagne, c'est un empire éternel et universel. Voilà. C'est Rome. Alors imaginez, je ne sais pas, Rome attaquée par, je sais pas, une sorte de grande pierre, un menhir par exemple, qui tombe sur les pieds d'argile et tout cela est remplacé.
C'est bizarre parce qu'on a l'impression que Rome c'est l'empire le plus fort.
Oui, c'est l'empire le plus fort. Parce qu'il y a du fer. Il est fait de fer et d'argile. C'est-à-dire, il a l'air très fort, mais en fait, il n'a rien. Pourquoi il n'a rien ? Parce que, si vous voulez, chaque empire est venu avec une valeur. Chacun ses valeurs. Les valeurs babyloniennes, les valeurs perses et les valeurs grecques. Mais tandis que ce que Rome a fondé, c'est ça la force de Rome, c'était le droit romain. Or, le droit romain n'est qu'une coquille. Il n'a que la capacité de faire un cadre, mais il n'a pas de contenu propre. Par exemple, quand on voulait passer pour quelqu'un de cultivé à Rome, eh bien, on parlait en grec. C'est-à-dire, c'était l'alphabet latin est une déviation, une dérive de l'alphabet grec. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contenu réel à la culture romaine, elle était tout à fait primitive, mais elle s'alimentait aux sources des autres cultures. D'accord ? Donc ce point de vue-là, elle est très forte, parce qu'elle donne la structure, ce qu'on appelle le fer, quoi. Mais elle n'a pas de contenu de valeur, c'est-à-dire le fer, ça ne coûte pas grand-chose. Bon, jusque-là, vous me suivez ? Bon. Alors ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des Grecs, puisque nous parlons justement de Hanouka. Il y a un texte très intéressant de Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbeinu Saadia Gaon, Bagdad, au 9e siècle, qui, dans son commentaire sur la Torah, explique que l'histoire de Hanouka avait déjà été annoncée par Moïse, par Moshe Rabbeinu. Comment ? Rav Saadia, Saadia, S-A-A-D-I-A, Gaon. Rav Saadia Gaon, qui était le maître de l'académie de Soura à Babylone, enfin à Bagdad précisément, qui était donc le dépositaire de la tradition talmudique, et qui a écrit un commentaire sur la Torah. Dans son commentaire sur la Torah, il explique que l'histoire de Hanouka était prévue... En fait, ce n'est pas dans son commentaire sur la Torah, c'est qu'il le dit, c'est dans son commentaire sur un texte peu connu qui s'appelle Megillat Antiochus, le rouleau d'Antiochus, qui raconte l'histoire de Hanouka en araméen. Et Rav Saadia Gaon a traduit ce texte araméen en arabe, et il a écrit également un commentaire sur ce texte. Alors ce commentaire en arabe explique que Moshe Rabbeinu avait déjà annoncé l'histoire de Hanouka. Où est-ce que Moshe l'a fait ? Eh bien dans la bénédiction qu'il a donnée à la tribu de Lévi, avant sa mort. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Ben, on va vous le lire, tout simplement. C'est dans la paracha de Zot Abracha, la dernière paracha de la Torah. Très bien. Où les Lévi amar, quant à Lévi, il lui a dit Tumecha veurecha liish chassidecha, tes urim et tes tumim, c'est-à-dire tes oracles, sont pour ton homme pieux. Asher nisito bemassa, que tu as éprouvé à massa, terivehu alme miriva, et que tu as, avec lequel tu t'es disputé sur les eaux de la dispute. Il s'agit de Aaron, n'est-ce pas ? Bon. Haomer, la vie voulit molloréitiv, celui qui est capable de dire à son père et à sa mère, je ne les ai pas vus, vetechav le kir, qui ne reconnaît pas ses frères, vetbanav le yada, qui ne connaît pas ses fils, qui chamrou imra, techa uritra in soro, car ils ont observé ta parole et préservé ton alliance. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la guerre des Béné Lévi, des fils de Lévi, après l'histoire du veau d'or, quand ils prennent l'épée, et qu'ils se mettent à tuer leurs frères, n'est-ce pas ? Yoru Mishpatecha le Yaakov, c'est eux qui enseigneront tes lois à Jacob, Vetoratra et ta Torah, les Israël à Israël, Yasimu Ketora Beapecha, c'est eux qui mettent de l'encens dans ta narine, Vechalil Alinzbachecha, et une offrande sur ton autel. Barech Hashem Helo. Béni, ô Dieu, son armée. C'est-à-dire qu'il y a une armée de la tribu de Lévi. En général, les Léviïm ne faisaient pas la guerre. Et pourtant, ici, Moshe dit qu'il faut bénir l'armée de Lévi. Ufo al yadav tirtze, désire l'œuvre de ses mains. Mehatz motnaim kamav, frappe ses ennemis à la hanche. Umsaneav, minyekumun, que ses haïsseurs, que ceux qui le haïssent, ne se relèvent pas. C'est-à-dire, il y a une guerre dans laquelle est impliquée la tribu de Lévi. Rav Saadia Gaon dit, il s'agit simplement de la guerre des Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, donc de la tribu de Lévi, et Moshe a déjà annoncé à l'avance une guerre de ce genre. Non, ça il a déjà parlé, il a déjà dit auparavant, deux versets plus haut. Et là, Moshe prie pour la réussite de Lévi contre son armée ennemie. Alors ça se passe 40 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire que Moshe prévoit une guerre de la tribu de Lévi, et donc la guerre de la tribu de Lévi, c'est les Hashmonaïm à l'époque de Hanouka. Et Rav Saadia Gaon, pour renforcer son interprétation, amène le texte de Daniel, justement. Et il dit, dans le texte de Daniel, on voit que la Grèce est comparée à des hanches de cuivre, n'est-ce pas? Dans la vision là, du colosse. Ce sont des hanches de cuivre. Hein? Donc, ce n'est pas qu'il faut le frapper à la hanche, d'après ce qu'il dit. Il faut frapper la hanche qui est son ennemi. Mehat motnaim, frappe la hanche. Et la hanche, c'est la graisse. Les hanches, plus précisément, c'est la graisse. Donc on voit que déjà à l'avance, Moshe connaissait le symbolisme de la hanche représentant la graisse, et c'est contre ces hanches-là qu'il faut frapper.
On dit que la graisse est comparée aux
hanches. C'est comme ça dans la vision de Daniel, enfin de Nabucodonosor dans Daniel. Rien à voir d'ailleurs avec la paléontologie et les dinosaures, c'est tout à fait autre chose. D'accord? Et donc, puisqu'il y avait un symbolisme que les hanches, ça représente la graisse, eh bien c'est contre eux que les Lévim vont lutter. Ah bon? Bon, alors là, ça demande d'aller plus loin, de comprendre pourquoi est-ce que... Non, alors frappe les hanches, qui sont son ennemi, Mehatz Motnaim Kamav. Elle frappe les hanches qui sont ses ennemis. D'accord? Ceux qui se lèvent contre lui, contre la tribu de Lévi. Alors, ça
ne pas seulement lever contre la tribu de Lévi?
Si, parce que la première emprise des Hellénisants, c'était justement sur le Beth Amikdash. D'accord? Bon. Et il y a toute une histoire de grands prêtres hellénistiques, etc. Bon. Et là, hein, ce qu'il faut donc approfondir, c'est deux choses. Pourquoi est-ce que la graisse est comparée à du cuivre et pourquoi à des hanches? N'est-ce pas? Du cuivre, tout d'abord, le cuivre, quand c'est bien frotté, ça ressemble à quoi? À de l'or. Ça ressemble à de l'or, c'est brillant, mais ce n'est pas de l'or. C'est quelque chose de beaucoup moins cher. Et donc, c'est une sorte de jugement qui est porté envers la Grèce, qu'elle semble être de l'or, mais qu'elle n'est que du cuivre. Elle est brillante, mais il n'y a pas de contenu réel. Et ça rappelle une très belle phrase de Rabbi Yehuda Halevi, le poète, qui disait « Al tefatecha chorma yevanit, ne sois pas attiré par la sagesse grecque, asher en la perot, car elle n'a pas de fruits, kim prachim, mais elle a des fleurs. » C'est la différence entre les fleurs et le fruit, c'est que les fleurs, c'est périssable. Et les bonbons, c'est tellement bon. C'est-à-dire, les bonbons ou bien les fruits, c'est quelque chose qui, d'abord, ça se mange. Et en plus de ça, ça reproduit. Il y a une fécondité, n'est-ce pas? Vous
connaissez?
Hein? Quoi, Jacques Brel?
Tu vous apporté.
Ah, il y a une chanson comme ça?
Ah
bon, merci de l'information. Ah oui, c'est vrai ce qu'il dit là. C'est vrai. C'est probablement donc c'était certainement donc en allusion dans mon discours. Et donc ce que dit ici Rabbi Yehuda Halevi, c'est qu'il y a un problème de fécondité. C'est-à-dire c'est une pensée brillante, l'hellénisme. Mais c'est une pensée sans fécondité. Elle n'a pas, disons, de capacité de transformer en profondeur la vie des hommes. Mais c'est esthétique. Il y a des fleurs. C'est comme le cuivre.
Ah, juste une question. Oui? Le pistache, il avait quand même fait un livre de morale pour pouvoir transformer l'homme. Pour qu'il ait la connaissance. Donc il y avait quand même une volonté de transformer l'homme.
Bien sûr, bien sûr. De le transformer, mais à l'extérieur, de même que le cuivre est brillant.
À l'extérieur ?
Oui. C'est-à-dire, la sagesse qu'ont adopté à laquelle se reliaient les Grecs, était ce qu'on appelait de la philosophie. Ça veut dire quoi, philosophie ?
La sagesse.
Non, Sophie, Sophia, ça veut dire la sagesse. Philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. C'est quoi l'amour de la sagesse ? C'est la conscience que l'on a qu'on n'est pas capable de s'unifier, de se fusionner avec la sagesse elle-même, mais qu'on est capable de l'aimer. C'est-à-dire qu'on est capable d'en faire le tour, mais pas d'entrer à l'intérieur. C'est-à-dire, ce que le philosophe admet, c'est qu'il ne peut connaître que ce qu'on appelle les accidents et pas l'être.
C'est ce qu'on pense aussi,
non ? Ah bon ? Il y a un texte qu'on appelle Va'chorma, Techaye Be'alea. La sagesse donne vie à ceux qui la possèdent. C'est-à-dire, le mot Chacham chez nous est identique au mot Chaim en Gematria, qui veut dire la vie. J'irai même plus loin. Le mot employé par la Torah pour dire la sagesse, c'est da'at. Et c'est le même mot qui est employé pour dire l'amour. Ve'adam yada, et l'homme connu. Il s'agit là-bas de l'amour. C'est-à-dire, philo et sophia sont le même mot en hébreu biblique. C'est-à-dire, il y a cette capacité d'accéder à l'être même. Attention, comment ? Eh bien, non pas parce que l'homme va à la sagesse, parce que s'il va à la rencontre de la sagesse, il n'est capable que de philosopher. Mais si la sagesse vient à l'homme, elle est capable de le rendre sage.
C'est l'interprétation que vous me donnez. Parce que l'amour de la sagesse, oui. Nous sommes l'amour de la sagesse, c'est-à-dire qu'on veut cet amour de la sagesse, mais qu'on n'arrivera jamais à l'atteindre.
Par nos propres forces, mais elle peut venir à nous. C'est-à-dire, dès qu'il y a l'idée de révélation, c'est le contraire de la philosophie. Ah, pas du tout. C'est-à-dire, le fait de ne pas avoir toute la sagesse, ça ne veut pas dire qu'on n'y participe pas. C'est-à-dire qu'on est, rempli d'un contenu positif auquel nous sommes ouverts. J'entends par là que la Torah, par exemple, elle est donnée à celui qui se fait petit, n'est-ce pas ? C'est ce que dit le Zohar. Celui qui est petit, c'est celui-là qui est grand. Tandis que celui qui se croit grand, il ne peut pas accéder à la Torah. C'est-à-dire que l'attitude que l'on a envers la Torah, c'est une attitude de réceptacle. Et je suis celui qui la reçoit. À partir du moment où je suis celui qui la reçoit, elle n'est pas limitée. C'est-à-dire l'infini peut venir à moi, et moi je ne peux pas arriver à l'infini. Mais je peux être traversé par l'infini. D'accord ? C'est très différent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs... L'écriture hébraïque a l'air d'être des flammes, ressemble à des flammes. Tu as déjà vu l'écriture en hébreu ? Oui, ça ressemble à des flammes. Par contre, l'écriture grecque est faite de lignes, et c'est sans vitalité. C'est intéressant, le fait même de la manière dont c'est écrit. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est mais pourquoi c'est comparé ben alors pour ce qui est du cuivre, on a compris. Le cuivre. À rappeler, en hébreu, comment se dit le cuivre ? Nechoshet. C'est ça ? Nechoshet. À rapprocher du mot ? Nahash. Nahash. Non, le Nahash n'est pas trompeur. Le Nahash, c'est l'intelligence naturelle.
Ouais.
L'airain. Ah oui, on dit en français souvent dans les traductions bibliques, on met de l'airain. A-I-R-I-N. Dans les traductions d'ailleurs des textes grecs anciens, dans les textes d'Homère, etc., on met l'airain. C'est en fait un mot poétique pour le cuivre. Peut-être le bronze. Une sorte d'alliage. Enfin, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, l'airain.
Et vous avez dit que la graisse,
aussi à la hanche. Aux hanches. Motnaim, les hanches. Alors, c'est quoi les hanches ? Ben, les hanches, on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Vous savez comment a commencé la révolte contre les Grecs ? Il y a deux interprétations, n'est-ce pas ? Oui, la première.
La première, c'est avec qui vous dites la fille du roi de Médon.
Et les rabbinim, ils débattaient dessus pour savoir si elle avait été violée ou si c'était un cas de. Si après le mari qui va aller avec elle ou non. Et ils ont dit que c'était un cas de force majeure, donc c'est pas grave. Et la fille d'une Cohen Gadol, à son mariage, elle n'avait plus pas de fille. Et ils ont réagi.
Donc... Elle s'est révoltée contre ça. D'accord. Donc c'est-à-dire que d'après le premier récit. C'est un récit intérieur à la tradition rabbinique. La révolte a éclaté par un problème de tzniout, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la fille du Kohen Gadol, ou enfin, en tout cas, il y a au moins 10 versions différentes de cette histoire. En tout cas, c'est une mariée qui n'a pas accepté la position des rabbins et qui s'est révoltée contre l'atteinte à la tzniout, n'est-ce pas? Quoi? Oui, bien sûr. Elle a été contre.
Non, mais elle avait contre la
tzniout. Non, elle était contre la violation de la tzniout. Contre les Grecs. Parce que les Grecs voulaient violer la tzniout. Et donc, elle s'est révoltée contre ça. N'est-ce pas? Quels que soient exactement les détails de l'histoire, parce que si vous voulez, je peux vous raconter ça. Il y a 10 versions différentes, d'après ce que j'ai compté. Et il y a un mélange absolument incroyable de différentes histoires. Il y a eu dans les textes rabbiniques, vous voyez qu'ils ont confondu Yaël, Yehudit, Myriam, Hana et une anonyme. D'accord? Donc vous avez à peu près 5 noms différents pour la femme en question. Et ce qui s'est passé exactement? Mais enfin, disons que ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas accepté, cette jeune fille, l'atteinte à la tzniout. D'accord? Bon. Ça, c'est, et c'est comme ça que ça a commencé la révolte. Vous connaissez l'histoire? Oui ou non? Oui, bon. Autre version. Dans le livre des Maccabées, oui.
Je crois que c'est qu'il y a tout un village qui a accepté de se faire tuer parce que c'était pendant Shabbat. Et après les Hachnoumen, ils ont vu que.
Non, ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé par une soirée avant. C'était un petit village, c'est-à-dire toute la Judée était occupée. Toutes, et non, sauf un petit village où il y avait quelques fous. L'histoire racontée dans le livre des Maccabées, c'est que une compagnie de soldats grecs sont arrivés dans le village et ont voulu faire un sacrifice idolâtre à Zeus et présenter d'ailleurs un cochon sur un autel. Et le premier qui le ferait serait honoré par le roi et tout le reste. Alors, un juif s'approche pour présenter le cochon sur l'autel, et Matityahu dit, dans mon village, on ne fait pas des choses comme ça. Et alors, il massacre le juif, et le cochon, et l'autel, et les Grecs, et il dit, Mil Hashem Elai, celui qui est pour Dieu, vienne avec moi, et c'est comme ça que commence la révolte. La révolte, c'est une réaction au paganisme. C'est contre l'Avodah Zarah. C'est intéressant, c'est que cette histoire-là, c'est ça que nous avons vendu au Goyim pendant 2000 ans. C'est-à-dire, dans le livre des Maccabées, c'est ça l'histoire qui est racontée. C'est-à-dire, quand on veut se justifier d'avoir remis en question l'ordre du Moyen-Orient, l'équilibre du Moyen-Orient, on dit, c'est parce qu'on a voulu nous empêcher de servir nos dieux et qu'on a voulu nous imposer des dieux étrangers. Et ça, il semblerait que ça passe. C'est-à-dire, c'est ça qui a permis, par la suite, la victoire du monothéisme. Mais l'histoire de la tzniout, etc., c'est dans les Midrashim chez nous. C'est pas raconté dans le livre des Maccabées. Mais en fait, il semblerait qu'il y ait un rapport entre ces deux histoires. Pourquoi donc? D'abord, les hanches, c'est quoi? C'est le lieu de la nudité. D'accord? Et c'est à cela, justement, que les Grecs ont voulu porter atteinte. Le lieu de la herva, du rapport sexuel, etc. C'est là que ça a été l'atteinte. Il semblerait que, d'après ce que veut dire les Midrashim, que le fait d'être superficiel dans la sagesse est lié à un manque de pureté au niveau individuel. C'est-à-dire, quand on est éloigné de soi-même, et ça se fait justement par la souillure de la vie corporelle personnelle, eh bien, ça entraîne également un déséquilibre au niveau des pensées. Au niveau des opinions. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il y a un rapport entre les hanches et le cuivre. Les hanches, le lieu de la herva, de la nudité, mais c'est également le lieu où on a des pensées superficielles qui ressemblent à de l'or, mais qui ne le sont pas. Donc, impossibilité de la fécondité, justement. Tandis que s'il y a la kedusha, et c'est justement là-dessus que les Kohanim ont lutté. Ils ont lutté pour la sainteté. Et quand on lutte pour la sainteté, c'est à tous les niveaux, et ça se manifeste par la suite par l'huile qui brûle de manière miraculeuse. Donc, c'était ça. Et ça veut dire que souvent, si quelqu'un, par exemple, se pose des questions fondamentales au niveau de sa émouna, alors ça, évidemment, il faut y répondre. Les questions sont faites pour avoir des réponses. Mais souvent, la question n'est pas vraiment la question posée. La question est un problème de déséquilibre au niveau de la sainteté individuelle, et c'est ça qui se traduit par des questionnements. D'accord ? Par exemple, moi j'ai souvent l'expérience avec des jeunes Israéliens qui me posent des tas de questions. Parfois, il est question d'un jeune homme de 16 ans qui dit, voilà, Kvod Arav, je voudrais savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde. Ah bon ? Pourquoi tu veux savoir ? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde ? Est-ce que la question est bonne ? C'est une très bonne question. Mais, en général, cette question-là en cache une autre. C'est pire que ça. Et c'est pour ça que, pour vraiment savoir quelle est la question, je pose souvent la question à celui qui pose la question, qu'est-ce que ça peut te faire ? Pourquoi est-ce que lui a créé le monde? Et alors, c'est là qu'on découvre vraiment quelle est la question véritable qui est posée. Parfois, c'est voilà. En fait, j'ai une copine. Ah, ouais, bon, d'accord. J'ai une copine. Bon, c'est pas tout à fait net, du point de vue de la halakha, c'est pas clean. Bon, alors, il faut que j'en parle à mon rave. Bon, mais enfin, c'est embêtant d'en parler. Je vais quand même pas dire au rave, j'ai une copine, ça se fait pas. Alors, je veux dire, bon, ouais, j'ai une copine, mais alors, mais c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Ah, ben parce que c'est contraire à la halakha, c'est contraire à ce que dit la Torah. Ah bon. Oui, mais pourquoi est-ce que je dois faire ce que dit la Torah? Ah ben parce que c'est Dieu qui l'a donné. Dieu qui l'a donné. Ah bon. Mais pourquoi je dois l'écouter, lui? Ben c'est parce qu'il a créé le monde. Kvodara, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Après, il y a toute une chaîne qui se cache derrière tout ça. Et donc, il y a toujours un rapport entre l'essence même de la vie, qui se traduit par la sainteté de la fécondité, et les opinions. C'est un des enseignements de la fête de Hanouka. Ça, c'est donc la première remarque que je voulais faire pour votre Hanouka. Deuxième remarque. Vous savez que nous disons, dans les prières de Hanouka, nous récitons le Alanissim. Et à la fin du Alanissim, dans lequel on raconte un peu l'histoire du Hanouka, on dit, voilà, tes enfants sont entrés dans ton temple et ils ont purifié le sanctuaire et ils ont allumé des lumières. Où ça? Vidlikunerot, quelle est la suite? Ratzot, ça veut dire quoi? Dans tes saints parvis. N'est-ce pas? Le parvis du temple. Tes saints parvis. Ce qui est d'ailleurs absolument absurde. Où est-ce qu'on allumait des lumières dans le Beth Amikdash? Hein? À l'intérieur, dans le Echal, dans le sanctuaire, pas dans la cour. Alors pourquoi est-ce que les Hashmonaïm, en entrant dans le Beth Amikdash, allument des lumières dans la cour? Hein? Vers le ménage. Alors c'est ça quoi qu'on fête à Hanouka? Alors, effectivement, on peut dire que c'était pas l'allumage de la menorah dont il est question dans la prière. Il s'agit d'illuminer les cours pour, comme on fait à Simchat Beit HaShoeva, à Sukkot, on fait des grandes illuminations dans les cours du Beit HaMikdash, et alors il y a une grande joie, etc. Mais il faudrait quand même que ce soit en rapport avec le miracle de la fiole d'huile, non? Je crois. Donc il faut quand même qu'il y ait un rapport. Je vais vous donner un enseignement donné par un des rabbins du Machon HaMikdash. Vous savez ce que c'est le Machon HaMikdash? Non. L'institut. Ah ouais, c'est très bon. Non, mais c'est l'institut du temple. Vous savez ce que c'est? Il y a à Jérusalem, ce qu'on appelle l'institut du temple, dans lequel on fabrique les ustensiles pour le Beth HaMikdash. Ils ont fait une menorah en or, superbe et tout ça. Et bon, ils ont beaucoup de publications. Alors, le directeur de ce centre, le Rav Israël Ariel, a dit qu'en fait, d'après la halakha, l'allumage de la menorah, d'après la halakha, peut être fait par des gens qui ne sont pas des kohanim. Mais il y a un problème, c'est que la menorah est dans le sanctuaire. Or, personne ne peut rentrer dans le sanctuaire s'il n'est pas kohen. Donc il y a ici problème. Comment, si je ne suis pas kohen et qu'on veut quand même me faire l'honneur d'allumer la menorah, comment est-ce que je vais l'allumer ? À moins que j'ai une longue allumette de 20 mètres de long, et comme ça, j'arrive à allumer de l'extérieur et j'allume à l'intérieur. Il y a une autre possibilité, parce que c'est des allumettes de ce genre, je ne sais pas si elles existaient à l'époque. Comment ? Comment ça ? Sortir la
menorah ?
Oui, mais... Non, dans le parvis, on peut rentrer. C'est-à-dire, si on n'est pas Cohen, on peut quand même rentrer dans le parvis. Mais la menorah doit être à l'intérieur du sanctuaire. Alors, comment faire ? Non, c'est très simple. La menorah, elle porte des lampes. Les lampes sont détachables. Donc, on peut détacher les lampes, les mettre à l'extérieur, les faire allumer par quelqu'un et les remettre sur la menorah. C'est-à-dire, la menorah, le candélabre, est un support. Mais les lampes elles-mêmes sont détachables. Et donc, ce que dit le Rav Israël Ariel, c'est la chose suivante. C'est que, après avoir fait la victoire, on a voulu honorer les chefs des armées. Et donc, on leur a sorti les lampes à l'extérieur pour qu'ils allument. Bechatzrot kotira idliku nerot, bechatzrot kotira, ils ont allumé les lumières dans tes saints parvis. Et après, ils les ont été introduites à l'intérieur et mises sur la menorah.
C'était pas des Kohanim,
les chefs de... Ça dépend, il y avait des Kohanim, mais pas tout le monde. Pas tout le monde, il y avait des tas de juifs qui faisaient la guerre, d'accord ? Et donc, c'était une sorte d'allumage, disons, solennel, à la manière d'une cérémonie militaire, en fait. Ce qui explique un autre passage de la Gemara dans le traité de Menachot. Vous savez que dans le traité de Shabbat, on dit que lorsque les Hashmonaïm sont rentrés dans le Beit HaMikdash, ils n'ont pas trouvé d'huile pure, sauf une petite fiole. Mais ce qui est raconté dans le traité de Menachot, et ça c'est moins connu, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de menorah. Il n'y avait pas seulement pas d'huile, il n'y avait pas de menorah. La menorah avait été pillée par les Grecs. Alors, ce que dit la Bréta qui est même dans Maseret Menachot, c'est qu'ils ont trouvé 8 broches. Shmona Shipudim. 8 broches de fer. Qu'est-ce que font des broches de fer dans le parvis du temple ? C'est-à-dire, ils ont fait des broches quoi pour faire leur porc sur l'autel, hein, leur barbecue. Et on va se servir de ça pour faire une menorah. Tout simplement, c'était des épées. Et on a fait la guerre. Il y avait des épées. Ils ont pris 8 épées, ils en ont fait une menorah. Petite question, pourquoi 8 ? Combien de branches il y a dans la menorah ?
7.
7, alors pourquoi 8 broches ?
Une en plus.
Une en plus, qui a servi à quoi ? Chamash, pas de chamash dans le Beit HaMikdash. À soutenir, il faut bien un pied, non ? C'est-à-dire, vous faites une menorah, il faut bien qu'elle tienne sur quelque chose. Donc il y a d'abord le support, et puis après vous avez 7 branches, tout simplement.
La menorah, 7 branches, plus le pied aussi.
Oui, bien sûr. Donc ils avaient besoin de 8 broches. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a ici en fait deux miracles. Il y a le miracle d'avoir fait vraiment un miracle. Ils ont trouvé 8 broches, ils en ont fait une menorah. Mais cette menorah était en fait l'expression de leur victoire. Il y avait donc un élément militaire, militariste dans cette menorah. D'accord ? Et c'est-à-dire qu'il y avait une participation de la dimension spirituelle, l'huile, à la dimension politique, des broches. D'accord ? C'est ça le miracle de Hanouka. C'est l'unité des deux. Ça, c'est un deuxième point.
Oui ?
Il y a une source à ça, mais je ne me rappelle plus. Mais enfin, il y a une certaine logique à ça. D'abord, c'est quoi cette histoire d'impureté dans le Beit HaMikdash ? Comment est-ce que le Beit HaMikdash était devenu impur ? Ben, pour faire la conquête du Beit HaMikdash, ils ont tué pas mal de monde. Hein ? Donc il y avait des cadavres un peu partout. C'est ça. C'est-à-dire, il faut bien se représenter. C'est-à-dire, l'histoire de Hanouka, on voit ça de manière un peu image d'épinal, mais en fait, c'était très violent, cette histoire. À petite remarque. Vous savez que après la victoire, que Yehuda Maccabi se soit fait tuer pendant une bataille et qu'il a été remplacé par son frère Yonatan, eh bien les Séleucides qui sont venus après Antiochus est mort en Perse, enfin. Mais après, il y a eu des rois séleucides en Syrie, n'est-ce pas ? Les descendants d'Antiochus, Démétrios, Balas, tous ces machins-là. Vous savez qu'ils ont reconquis Jérusalem. C'est-à-dire, après la victoire de Hanouka, après l'histoire des Toupies, des Sphènes et tout le reste, les Grecs refont la conquête de Jérusalem et Yonatan, avec les Maccabim, prennent la fuite. Ils prennent la fuite, ils s'enfuient en Transjordanie. Et pendant 3 ans, Jérusalem est sous domination grecque à nouveau. Mais attention, ils n'étaient pas si bêtes que ça, les rois grecs. Ils ont dit, d'accord, vous êtes révoltés contre nous parce que nous avons fait des persécutions religieuses. Maintenant, on vous promet, on ne ferait pas de persécution. Et alors, les rabbins à Jérusalem ont accepté la situation. Et pendant 3 ans, donc, Jonathan doit faire la guerre, etc. Finalement, les Grecs ont refait des persécutions. Alors ça a permis à Jonathan d'être rappelé. Alors les habitants de Jérusalem disent, tu peux faire quelque chose pour nous? Voilà, on a besoin de toi. Bon, alors il revient, hein, il refait. Quoi? On ne fuit pas. Fuir volontairement, ça me semble un peu bizarre.
Non, question c'est, il a fui parce que personne ne veut le soutenir.
Exactement, exactement. C'est-à-dire, il y avait un parti pro, c'est le site pro-grec à Jérusalem. Enfin, vous voyez que ça ne va pas si simple que ça. Soit dit en passant, après que Jonathan se soit fait tuer lui aussi, finalement, il a été remplacé par son frère, qui s'appelait Shimon, qui était le premier des Hashmonaïm à porter le titre de roi. Et une fois Shimon devenu roi, tout ça, ça se passe, disons, quelque chose comme 20 ans après la victoire de Yehuda Maccabi qui a purifié le temple. Hein. 20 ans plus tard, Shimon, enfin, détruit la Hakra. La Hakra, c'était une forteresse grecque sur le Harabait, sur le mont du temple. Ce n'était pas l'Avodah Zera, c'était la garnison grecque qui était restée sur le Harabait. Pire que ça, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez lu le livre des Maccabées quand même. Eh bien, lorsque Yehuda Maccabi fait les sacrifices d'inauguration du Beth Amikdash, c'est-à-dire la fête de Hanouka, quoi, l'événement extraordinaire, il demande aux soldats qui sont à côté de lui de bien vouloir continuer à tirer des flèches en direction de la Hakra pour qu'ils arrêtent de lui lancer des pierres pendant qu'il fait ses sacrifices. C'est-à-dire que, vous voyez, il y avait des Grecs comme ça, il y avait la victoire, quoi, je sais pas. Vous avez un général en chef d'une armée victorieuse, vous allez quand même pas commencer à lui lancer des pierres, c'est un peu dangereux. Non, ben voilà, il y avait des gosses grecs comme ça qui lançaient des pierres. Et alors, Yehuda, est-ce que vous voulez pas lancer quelques flèches en direction pour qu'ils arrêtent de nous casser les pieds, quoi? Et ça a duré comme ça pendant 20 ans. Maintenant, le problème, comment est-ce qu'une garnison grecque peut tenir le coup sur le Harabait, alors que tout le territoire autour est aux mains des Juifs? Non, il y avait le Beth Amikdash, les Juifs montaient là-dedans. Alors comment est-ce que pendant 20 ans, il y a une garnison qui tient le coup, comment les ravitailler? Alors que tout le territoire autour est aux mains des Juifs. Non, il y avait un accord pour des raisons humanitaires avec Démétrios, qui était le site de l'époque. Pour des raisons humanitaires, on assurait le ravitaillement de la Hakra. D'accord? C'est-à-dire, il a fallu 20 ans pour pouvoir changer la situation. Il y a probablement des raisons à cela. Tout simplement parce que lorsqu'il y a une division à l'intérieur du peuple, cette division se traduit également par Jérusalem. Ça, on en parlera le jour où nous étudierons Blin Neder sur le jour de Yom Yerushalayim. Et donc, il y a un rapport. Et c'est quand toutes les factions du peuple se sont mises d'accord pour donner la couronne à Shimon, c'est là qu'il a eu assez de force pour renvoyer les Grecs. D'accord? Il a détruit la Hakra jusqu'aux fondations. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, les archéologues ne sont pas d'accord pour déterminer l'emplacement exact de la Hakra parce qu'il n'en reste rien. Voilà. C'est donc la deuxième remarque à propos des Hatserot. Et je voudrais maintenant, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, vous parler d'un rapport qu'il y a entre la fête de Hanouka et le personnage de Aharon, le frère de Moshe. Vous savez qu'il y a trois fêtes qui ont été rajoutées par les Chachamim après les fêtes de la Torah, qui sont Hanouka, Purim et Yom HaAtzmaout. Et chacune correspond, ça vous fait rigoler, hein, c'est ça, oui. C'est-à-dire, ça veut dire que, ah bon, alors c'est vrai ce à quoi nous croyons? C'est vraiment vrai? En tout cas, donc, et ça correspond, en fait, à des identités, des identités bibliques. De même que la fête de Sukkot correspond au personnage d'Abraham, celle de Pessah à Yitzhak et celle de Shavuot à Yaakov, eh bien, la fête de Pourim, c'est celle de Moshe. C'est-à-dire que Moshe travaille en filigrane à travers les événements de la fête de Pourim, et Aharon en filigrane à travers les événements de la fête de Hanouka. D'accord ? Et comment cela ? Hanouka, c'est la fête des Kohanim, n'est-ce pas ? Quelle a été la grande gaffe d'Aharon ? La Torah, rappelez-vous un peu dans la Torah, la grande gaffe d'Aaron. Incroyable. Non, vous écoutez, non, vous vous rappelez de tas de petits détails, mais l'essentiel, c'est comme si on vous montrait, voilà, je sais pas, la photo d'un pot de fleurs, et vous direz, ah, il y a une mouche là-bas.
Le
veau d'or. Le veau d'or, ben voilà, le veau d'or. Voilà. Bon. Alors, il manquerait plus que ça que ce soit de sa faute. Mais enfin, c'est un peu de ça. Il a trempé dedans, quand même. Bon, alors, c'est quoi le veau d'or ? C'est le désir de participer à l'extérieur. C'est-à-dire, étant donné que le peuple a jugé que Moshe ne reviendrait pas, donc celui qui donne la Torah n'est pas là, donc on va faire quelque chose à la place, quelque chose d'extérieur. Et on va chercher la sainteté à l'extérieur, ça va donner le veau d'or. C'est pour ça qu'il s'adresse à Aaron, qu'il considère comme étant un grand spécialiste des affaires religieuses, il dit, voilà, tu vas nous faire un dieu. Et Aaron est un spécialiste effectivement de l'extérieur, puisque c'est un prêtre, et qu'il revêt des vêtements splendides, les chavod ultif aret. Les vêtements splendides sont faits pour faire de l'impression, pour faire de l'impression sur l'imagination. Et donc, tout cela participe de cette volonté de trouver de la sainteté à l'extérieur. Et c'est là qu'il y a une rencontre avec les Grecs. Les Grecs exploitent cela. Les Grecs également, qui ont également une sorte de sagesse esthétique, extérieure, vont rencontrer à travers Aaron, ils vont chercher chez les Kohanim, justement, ceux qui pourraient collaborer avec eux. Ils trouvent des Kohanim qui sont hellénisants, qui vont dans ce sens. Et la révolte des Kohanim, celle de Matityahu et de ses enfants, c'est la réparation de la faute du veau d'or. Ça commence par un événement antérieur à tout cela. C'est lors de la conquête d'Eretz Israël par Alexandre le Grand, qui amène donc l'hellénisme en Eretz Israël, et quand vient à sa rencontre le grand prêtre de l'époque, qui s'appelle Shimon HaTzadik, et qui est revêtu des Bigdei Kehuna, des vêtements du Kohen. D'après la halakha, c'est interdit. On n'a pas le droit de porter ces vêtements-là en dehors du Beth Amikdash. Mais il y va quand même pour faire de l'impression sur Alexandre le Grand. Effectivement, Alexandre se prosterne devant lui. Très impressionné par Shimon HaTzadik, il se prosterne devant lui, et c'est comme ça que le temple de Jérusalem est sauvé de la destruction, et qu'à la place il va détruire le temple des Samaritains. C'est toute une histoire. En tout cas, c'est-à-dire le Kohen Agadol de l'époque est venu de l'intérieur pour illuminer l'extérieur, et c'est comme ça qu'il a arrêté le mouvement d'illumination de l'hellénisme contre nous. Et après, ça c'est arrivé à sa plénitude avec la victoire des Hashmonaïm, qui, de l'intérieur de la Kehuna, de la prêtrise, va chercher la sainteté intérieure qui pourra lutter contre l'hellénisme. Bon, vous savez que ça a complètement foiré après. La première génération des Hashmonaïm ont des très beaux noms. Ils s'appellent Matityahu, Yehuda, Yonatan, Yohanan, Shimon, hein, et Lazare. La génération d'après, c'est un certain Yehuda Aristobolos. Ouais. Génération d'après, mais enfin, Yehuda, c'est quand même le premier nom en hébreu. Aristobolos, c'est le nom en grec, c'est en deuxième. Troisième génération, Alexander Yanai. C'est-à-dire, le nom grec vient en premier, après il y a le nom hébreu. Quatrième génération, Orcanos, Aristobolos, Antigonos. C'est-à-dire que il y a eu une chute dans l'hellénisme. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que les Kohanim se sont mêlés de faire de la politique. Or, ils ne sont pas faits pour ça. Ceux qui sont faits pour faire de la politique chez nous, c'est la dynastie du roi David. Et à partir du moment où des Kohanim essaient de prendre le pouvoir, alors ils perdent de pied et main. Pour une raison très simple, c'est que la culture politique, de l'époque, c'était l'hellénisme. À partir du moment où tu veux prendre le pouvoir et que tu n'as pas d'expérience là-dedans, tu vas tomber dans la culture politique des Grecs de l'époque et tu vas devenir pire qu'eux. Tandis que s'ils avaient donné le pouvoir à un descendant du roi David et qu'eux s'occupaient uniquement des choses de la Kehuna, du sacerdoce, ça aurait été bien. Mais enfin, ça n'a pas vraiment marché à l'époque.
C'est un super argument pour les religieux qui ne veulent pas.
Absolument. Qui laisse les autres faire leur travail. Maintenant, il y a également le contraire, par exemple, la position de Ben-Gourion. Ben-Gourion qui a voulu asservir le sacerdoce à l'État. Il y a les deux gaffes dans les deux sens. Et la synthèse réelle, c'est quand on considère que le régime politique du peuple juif, c'est quelque chose de bicéphale qui a deux branches différentes, l'une qui s'occupe de la dimension politique, qui est sainte elle aussi, et l'autre qui s'occupe de la dimension cultuelle, qui est sainte aussi.
Donc la politique n'a rien à voir
avec la Kehouna. Oui. C'est-à-dire le Kohen, ou même le rabbin, ne peut pas faire de la politique. Il a son mot à dire dans la politique, mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Et disons comme ça, pour chaque chose que je vais dire dans mes cours, tu pourras toujours poser cette question, la réponse sera toujours non. C'est-à-dire que, par définition, toute personne qui a une opinion, ça suppose qu'il y a d'autres opinions, sinon il ne parlerait pas. Par exemple, personne ne vous donne un cours pour vous expliquer qu'aujourd'hui il fait jour. Des choses qui sont admises par tout le monde ne sont pas des sujets de cours. Alors ça, il faudra qu'on parle... Non, ça, il faudra qu'on développe ça plus. Un jour, nous ferons une étude sur le régime politique selon la Torah. D'accord. Là, j'ai simplement ouvert le sujet, mais je ne l'ai pas entouré de tous les côtés, et c'est dommage. Voilà. Bonne fête de Hanouka. Shalom.